après le culte dans le foyer. Il n'y a également pas de repas communautaire dans un mois, le 29 décembre, mais pour nous faire pardonner, on vous prépare une petite surprise le premier dimanche de janvier, à laquelle vous êtes bien évidemment toutes et tous invités. De manière plus proche de nous, ce mardi, il y a l'atelier biblique à 20h ici même sur la diversité culturelle. En décembre, le 1er décembre, à 17h, le concert Psalmodie, donc une septantaine, de choristes accompagnés de musiciens qui viendront à l'EM ici pour ce concert. L'ouverture des portes sera à 16h. Le concert est bien évidemment gratuit, mais il y aura un chapeau à la sortie. Également en décembre, donc le dimanche 15, à 15h, il y a la fête de Noël. Donc, à bien noter, il n'y a pas de culte à 10h, mais il y a la fête de Noël à 15h, avec au programme un message, des chants de Noël, un spectacle d'enfants. C'est pour ça que le rang de devant aujourd'hui est vide. Ils sont en train de le préparer en bas. Et un buffet de desserts. Alors, pour le buffet, chacun amène son dessert, un dessert de son choix. Merci de privilégier les choses qui se mangent debout et sans couvert. Donc, pas de mousse, pas de tiramisu, malheureusement. Quant aux boissons, elles seront pourvues par l'Église. Donc, voilà. On se réjouit de passer ces moments tous ensemble. Et avec ces belles choses qui nous attendent, je vous souhaite à chacun et à chacune la bienvenue pour ce moment de culte, que vous veniez pour célébrer, pour vous recueillir, que vous ayez passé une bonne semaine ou une mauvaise. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous propose de prendre un moment de prière pour remettre ce moment. Seigneur, je te remercie pour l'occasion qu'on a de venir se rassembler ici. En paix, en sérénité. Je te prie de nous accompagner pendant ce moment, qu'on puisse te remettre nos soucis, nos charges de cette semaine, de ce mois, de cette année. Je te prie de nous accompagner dans nos moments de prière, dans nos moments de louange, dans nos moments de réflexion et de questionnement. Au nom de Jésus, Amen.
Bonjour. Ouais, tu fais bien de prier pour ces moments. Je te remercie. Parce que c'est vrai que j'aime pas le mois de novembre. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas le mois de novembre. Il fait nuit le matin, il fait nuit le soir, il y a du brouillard. Décembre aussi, ouais. Mais novembre, ça commence, quoi, voilà. Donc, ça me donne un peu le blues, c'est vrai. Alors, excusez-moi de me plaindre, alors que je devrais faire une introduction à la louange ce matin. C'est quand même pas très bien. Mais j'en viens tranquillement à mon introduction. Est-ce que vous avez vu cette affiche, j'imagine, dans les rues ces dernières semaines? Non. Donc, c'est l'affiche du BPA, hein, pour mettre un gilet de sécurité pour être vue. C'est sûr que si la grenouille, elle pouvait mettre un gilet de sécurité, eh bien, elle serait vue, puis ce serait, on pourrait l'éviter en voiture, peut-être. Hein, c'est ça l'idée. Pourquoi, c'est bien ce gilet jaune? Eh bien, il a des bandes réfléchissantes. Il est fait pour que, c'est fait tout petit miroir, et puis comme ça réfléchit la lumière des phares des voitures. Mais si je porte ce gilet dans ma cave et puis que j'éteins la lumière, on ne verra pas plus, hein, on ne verra pas plus. Je serai nuit noire. Parce que ce gilet, il n'est pas la lumière, il est la transmission de la lumière. Et puis, voilà, j'en viens vraiment à mon introduction. Dans ce monde qui est tellement noir, effectivement, hein, les nouvelles, elles ne sont pas terribles quand on allume la TV. Eh ben, on peut dire qu'on est aussi au mois de novembre, un peu du monde. Un peu le mois, il fait nuit le matin, nuit le soir, machin. Mais bonne nouvelle, Christ est la lumière du monde. Et on est appelé à être le reflet de cette lumière avec des gilets. Jean-Baptiste, il est décrit comme ça dans Jean 8, verset 12. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, » dit-il. Excusez-moi, je me trompe là dans ma présentation. En fait, c'est pour redire que Jésus est lumière du monde. Dans Jean 8, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et puis, si je reviens en arrière dans Jean, excusez-moi, donc Jean-Baptiste, lui, il était le reflet de cette lumière. Et voilà ce qu'il est dit dans la Bible à propos de Jean-Baptiste. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc voilà, on est invité à revêtir un gilet fluorescent dans nos vies, à être le témoin de la vie de Christ en nous. Alors peut-être c'est un peu compliqué le premier jour de mettre un grand gilet comme ça, et puis peut-être qu'on peut déjà démarrer avec un bandeau. C'est plus facile, mais c'est déjà pas mal. Hein, si on peut être un bandeau, et puis comme ça, un petit reflet de la lumière. Alors chantons la louange, chantons ce Christ ressuscité, parce qu'ensemble, ensemble on est en sécurité ici, on peut chanter facilement, Christ est la lumière, et puis que ce refrain, il nous guide tout au long de la semaine aussi.
Son nom est Saint. sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est
Yeah. donne mon cœur.
Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi.
Bonjour à chacun et à chacune. Très heureux de vous retrouver après 15 jours d'absence. Merci encore au Conseil pour son soutien. Vous savez ou vous découvrirez alors que j'étais en voyage missionnaire, en court terme comme l'on dit, avec une ONG avec laquelle je collabore depuis une dizaine d'années et qui travaille à la libération des personnes qui sont prises dans les réseaux de traite d'êtres humains. Une ONG qui est vraiment dédiée à cette cause, en particulier en Asie du Sud-Est. Et j'étais donc à Bangkok 12 jours, pour animer la conférence retraite annuelle de cette ONG en 2 fois 6 jours, parce qu'il y a eu une grosse participation des bénévoles et des permanents de cette ONG, 2 fois 200-215 personnes qui ont participé. Et on a décidé pour cette année de scinder la conférence habituellement prévue sur 10 jours en 2 fois 6 jours pour permettre à chacun, au plus grand nombre, d'y participer. C'était un temps extrêmement fort. Je ne vais pas m'étendre ce matin. Si vous souhaitez en entendre plus, je suis bien sûr à disposition. Il y a aussi quelques photos, mais je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. C'était un temps extrêmement fort. On donne beaucoup pendant ces quelques jours, mais je dois vous dire aussi que c'est des temps qui me renouvellent. Toujours intéressant de voir comment les choses se passent ailleurs, dans une autre culture, sur un autre continent, avec d'autres personnes, d'autres habitudes, d'autres sensibilités, mais de constater qu'au milieu de tout ça, il y a l'attente d'un même Seigneur et le respect d'un même Seigneur. Ça me touche énormément de voir cette œuvre de Dieu se déployer, pas juste à Mérin, en Suisse, en Europe, mais dans le monde entier. C'est un beau témoignage que je souhaite rendre à l'honneur du Seigneur. Depuis quelques semaines, nous sommes dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un idéal de justice auquel même des non-chrétiens se réfèrent. Parce que l'amour, la paix, la justice, qui pourrait être contre ? Ah. Qui pourrait être contre l'amour, la paix et la justice ? Qui pourrait être contre ces choses ? Puis en même temps, quand on fixe nos regards sur le sermon sur la montagne, dans le détail, eh ben on s'aperçoit que ce sermon, qui parle d'amour, de paix et de justice, contient aussi quantité d'exigences fortes. Et je pense que si les gens prenaient le sermon sur la montagne au pied de la lettre, eh bien, ils n'auraient peut-être pas tellement envie de s'en réclamer encore. Nous avons dit la dernière fois que Jésus fixe la barre très haut dans le sermon sur la montagne. Il dit par exemple, en Matthieu 5, verset 20, « Si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les spécialistes des Écritures et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les spécialistes des Écritures et les pharisiens, qui n'avaient qu'un seul but dans la vie, tout était orienté vers la connaissance des lois de Dieu, jusque dans le moindre détail, pour les appliquer rigoureusement. Comment donc serait-il possible de mieux obéir que les scribes et les pharisiens ? Et c'est ce que Jésus va s'atteler à nous faire comprendre maintenant, dans la section qui s'ouvre, avec 6 exemples, dans les versets suivants. On ne va en prendre qu'un d'exemple aujourd'hui. Mais Jésus va nous donner 6 exemples très concrets, pour voir comment nous, aujourd'hui, en 2024, nous allons pouvoir essayer d'obéir mieux que les scribes et les pharisiens. Et derrière les 6 exemples que Jésus va nous donner, il y a des principes permanents qui sont au nombre de 3. Et je trouve important juste de les relever avant de prendre un premier exemple. Les 3 grands principes permanents, c'est les suivants. Nous ne devons pas affaiblir la parole de Dieu par des interprétations humaines. Nous ne devons pas affaiblir la parole de Dieu par des interprétations humaines. Devant Dieu, c'est l'attitude du cœur qui compte et pas seulement l'acte que l'on voit de l'extérieur. L'attitude du cœur. Enfin, la justice de Dieu n'est pas une série d'interdictions. La justice de Dieu, marcher selon Dieu, ça s'exprime de façon positive. Ce que je fais de bien est aussi important que ce que je ne fais pas de mal. Et ce que je vous propose, c'est de passer au crible le premier exemple que Jésus nous donne en écoutant ou en suivant la lecture de Matthieu 5, au verset 21 à 26, et c'est Francine qui va faire cette lecture. Matthieu 5, verset 21 à 26, le premier exemple que Jésus nous donne de justice selon Dieu.
Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. » Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur « imbécile » mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Aïe. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à l'officier de justice et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime.
Merci Francine. Et jusque-là, nous étions dans la lecture de la parole de Dieu. À partir d'ici, c'est donc une interprétation. Et un des défis pour moi comme pasteur est de ne pas affaiblir la portée de la parole de Dieu par des interprétations humaines. Que Dieu me soit en aide. Il nous faut d'abord bien comprendre ce premier exemple que Jésus donne. Le commandement. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Où est-ce que ça a été dit à nos ancêtres? Cette parole-là, tu ne commettras pas de meurtre? Dans les 10 commandements. Donc c'est bien une parole qui a été dite à nos ancêtres de chez les ancêtres, hein. Les Israélites délivrés d'Égypte, pour rester libres, souviens-toi, tu ne commettras pas de meurtre. Mais, celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Ça a été écrit où? Non. C'est un ajout. J'y reviendrai. Mais il n'a jamais été dit à nos ancêtres, celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Seule la première partie a été dite à nos ancêtres. Si vous avez suivi, vous, la lecture dans une Bible qui met les citations de l'Ancien Testament en italique, vous aurez pu repérer que la première partie est en italique, mais pas la suite. Déjà parce qu'il y a là une question de traduction. La version la plus courante, elle dit simplement « tu ne tueras pas ». Ça, c'est la version la plus courante, celle qu'on a dans la plupart de nos Bibles. « Tu ne tueras pas ». Mais là, on a un petit problème. Parce qu'on prend le risque d'induire les gens en erreur. Parce que la législation même de l'Ancien Testament, elle connaît l'abattage des animaux. Elle connaît la guerre. Elle connaît la peine de mort. Moïse, Josué, David, c'était des chefs militaires. Certains juges ont conduit des opérations punitives, massives, qui ont coûté des vies. Et puis que faire de ceux dont c'est le métier? Des policiers, des militaires. Le « tu ne tueras pas » désigne en fait le meurtre. Et il est important, il est bon, il est nécessaire que nos traducteurs modernes relèvent que c'est le meurtre qui est visé. La nuance plus précise des verbes, elle existe en hébreu et en grec, et c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Le commandement de Dieu, ici, il est clair, il est simple, il est lapidaire. Tu ne commettras pas de meurtre. Lévitique 24, verset 17. Et c'est donc à partir du commandement clair de Dieu que la tradition des scribes et des pharisiens est venue ajouter quelque chose. Elle est venue ajouter, la tradition, celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Autrement dit, les scribes et les pharisiens, ils affaiblissent le commandement de Dieu en envisageant le cas où on n'obéit pas. Pour une législation nationale, pour des lois civiles qui gouvernent un pays, c'est tout à fait normal. Mais pour être à l'écoute de la volonté de Dieu, pour rester en relation avec un Dieu saint, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pour rester en relation avec un Dieu saint, ça ne va pas. Parce que pour rester en relation avec un Dieu saint, on ne va même pas envisager la désobéissance. Pour rester en relation avec un Dieu saint, la désobéissance, elle est impensable. On ne la conçoit même pas. Pourquoi donc ? Parce que si vous commencez à envisager la désobéissance, eh bien vous commencez à calculer. Est-ce que je serai pris ? Est-ce que je serai condamné ? Est-ce que la punition sera lourde ou pas ? Non ? Alors si la punition elle n'est pas lourde, ce commandement-là, c'est du bluff. À Mérin, jusqu'au début des années 80, j'ai appris qu'il n'y avait pas de feu de signalisation dans la commune. Par endroit, la vitesse était déjà limitée à 50, 60 km/h, 80 sur la route de Mérin, parce que la visibilité était mauvaise ou parce que tel carrefour était dangereux, on limitait à 50, 60 km/h. Si je roule à 80, est-ce que je serai pris ? Non. Et puis même si je suis pris, est-ce que je serai condamné ? Peu de chance. Et si je suis condamné, est-ce que la punition sera aussi grave que ça ? Bah, tant qu'il me reste mon permis, ça va. Résultat, toujours des accidents. Et les panneaux n'ont servi que de cible pour des fêtards en mal de révolte. Et là, il a fallu installer des feux. Et comme s'il ne suffisait pas, il a fallu installer des ralentisseurs. Puis des zones 30. Puis acheter un radar mobile. Autrement dit, on est parti d'un idéal. Vous êtes libres, les gars. Soyez raisonnables. 50, 60 km/h, faites gaffe. On est parti d'un idéal pour arriver à un pis-aller. Celui qui commet un meurtre mérite d'être jugé par le Conseil suprême, c'est ça. Et il y a ici autre chose encore que l'incitation au calcul. C'est que Dieu a disparu de la loi. Il n'est plus question de Dieu, il est question d'un tribunal humain. Plus rien n'inspire la crainte de Dieu. C'est donc, mes amis, écoutez bien ça, que des interprétations humaines sont venues atténuer, diluer, affaiblir la loi de Dieu. Et de cette façon, le commandement même finit par me donner raison. Je n'ai pas commis de meurtre. Je ne suis pas redevable d'un tribunal. Je suis en règle. Moi, j'ai tué personne. Je ne suis pas aussi pire que je pourrais. Tout le monde est plus ou moins en règle. Nous irons tous au paradis. Qu'est-ce que Jésus fait de ça ? Ben c'est là que c'est important. Qu'est-ce que Jésus fait de ça ? L'idéal, la tradition humaine. Eh bien Jésus, il porte le commandement plus loin. Il pointe, lui, non plus le meurtre, mais la colère, l'insulte et la rancœur. Il dit, « Moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou à sa sœur « imbécile » mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Aïe, aïe, aïe. Si c'est comme ça, moi, je ne suis pas en règle. Parce que Dieu vise mon cœur. et toutes ces attitudes qui sont à l'origine du meurtre. Toutes ces pensées noires qui veulent régler son sort à quelqu'un, qui tentent à l'atteindre, à l'anéantir. La colère. La colère, elle ne sera jamais jugée en cour correctionnelle. Jamais. Ni devant un tribunal criminel, ni devant le tribunal fédéral, ni devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un seul tribunal qui est compétent pour juger la colère. C'est celui de Dieu. Le mépris, la parole blessante, la rancœur, l'insulte, la haine, c'est tellement courant chez les êtres humains et tellement caché au fond des cœurs qu'aucune justice humaine ne peut les traiter valablement. Mais la justice de Dieu, oui, il est saint. Et le verdict, dit Jésus, il est très simple. Le verdict, c'est le feu de la géhenne. C'est l'enfer. Pour un mot ? Pour une pensée ? Pour un instant d'énervement ? Pour un gros mot sur l'autoroute ? C'est Jésus qui le dit. C'est pas moi. Parfois, les chrétiens disent à propos de ce genre de passage que Dieu ne fait pas de différence entre petit péché et grand péché. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans le domaine de la vie en société. Parce qu'entre la calache et l'insulte, moi je préfère me faire insulter. Entre l'insulte et le regard méprisant, je préfère le regard. Les conséquences de l'acte ne sont pas les mêmes que les conséquences de la pensée, en tout cas pas dans un premier temps. Mais là où les chrétiens ont raison, c'est que ces petits péchés de la langue et de la pensée sont suffisants pour me condamner aux yeux de Dieu, parce qu'ils proviennent du même fond que le meurtre. Et je suis désolé, mais il y a encore pire. C'est que Dieu n'accepte pas de contrepartie. Versets 23 et 24. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu, ça c'est ce que tu fais ce matin. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu et que là, tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Les Israélites y comprenaient très bien ce discours-là. Nous, on a un peu plus de peine, mais les Israélites, ils le comprenaient très bien parce qu'ils étaient tenus de présenter des offrandes à Dieu au moins 3 fois par an au temple de Jérusalem. Et ce qu'ils découvrent, c'est que la pratique religieuse n'efface pas le péché que j'ai commis contre mon frère ou ma sœur. Venir au culte n'efface pas mes problèmes relationnels. Cette offrande, le culte, elle est pourtant voulue par la loi de Dieu, mais elle n'a aucune valeur devant Dieu si je n'ai pas mis ma situation en règle avec mon frère ou avec ma sœur. Si tu te souviens que ton frère ou ta sœur a une raison de ton vouloir. Autrement dit, si je me souviens d'un grief qu'a l'autre à mon égard, si je me souviens d'un tort que j'ai causé à l'autre, si je me souviens d'une fâcherie, d'une parole déplacée, si ma conscience me rappelle quoi que ce soit de ce genre, je dois aller chercher la réconciliation. Pas moins. Certains chrétiens savent si bien ce que Dieu pense ici qu'ils préfèrent ne pas venir à l'église ou s'abstenir de la Sainte Cène plutôt que d'aller demander pardon. Ils refusent de se remettre en question. Mais comment peuvent-ils recevoir le pardon de Dieu dans ces conditions-là ? pas de contrepartie, dit Dieu. Le commandement est absolu. Il vise ce qui se passe au fond de mon cœur. Et il faut que je sois honnête avec vous. Parce que là, c'est un peu théorique, hein. Quand je suis arrivé ici, en 2017, ça n'allait pas fort dans ma vie. Vous ne saviez pas tous les détails, hein, mais ça a explosé dans l'église où j'étais avant. Puis on m'a demandé d'aller cueillir des fleurs ailleurs. Le Seigneur a été bon, parce que vous m'avez accueilli, parce qu'il est fidèle, parce que voilà. Mais à l'intérieur, c'était détruit. Détruit. Il ne restait rien. Vous avez été plein de grâce. Le Seigneur était plein de grâce. Mais alors que je prenais place sur ces premières chaises devant, et que pour la première fois depuis très longtemps, je récitais le Notre Père avec vous, que je ne connaissais pas par cœur, j'étais incapable de dire à Dieu, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aux autres. Parce que j'étais incapable de pardonner. Mais plus que ça, je souhaitais la mort de mes ennemis. Je l'imaginais. Je la rêvais. Pendant 5 ans, toutes les nuits que Dieu faisait, je mettais en scène ma mort ou la leur, par vengeance. Et puis je lisais ce texte, je disais le Notre Père avec vous. Nous chantions des chants qui nous appelaient au pardon, à l'amitié, à la fraternité. Je croyais déjà ce que je vous dis ce matin, mais je ne le vivais pas. Et il a fallu toute l'étendue de la grâce de Dieu pour que des tentatives de réconciliation aient lieu. 2 ont abouti. Une multitude n'ont pas abouti. C'est déjà ça. J'y reviendrai. Dieu veut que l'on cherche la réconciliation. Et il veut non seulement que l'on s'abstienne de pensées mauvaises, mais que l'on cherche activement des relations sereines. Va d'abord, nous dit-il, faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Laisser son offrande sur l'autel et aller se réconcilier avec son frère ou avec sa sœur. Ça a l'air de rien, ça. Mais si moi je suis venu en pèlerinage depuis la lointaine Galilée, un aller-retour de plus, ça fait des jours et des jours de marche. Les croyants de l'époque, Jésus inclus, ils n'avaient pas de portable. Régler un différend avec quelqu'un qui se trouvait à l'autre bout du pays, c'était super exigeant, c'était difficile. Est-ce que c'est plus facile maintenant de régler un différend avec nos portables ? Sûrement pas. Parce que le coût de la réconciliation, ce n'est pas le prix d'une communication. Ni d'un aller-retour Jérusalem-Galilée sous un soleil de plomb. C'est le prix de l'humilité. C'est le prix du renoncement à ses propres droits. C'est le prix du regard dur de l'extérieur, des critiques des autres qui pensent qu'eux, ils auraient fait mieux. C'est le prix de la victoire sur l'orgueil et sur la peur. Ça, vous le chiffrez à combien, vous ? Je me souviens donc que mon frère ou ma sœur a quelque chose contre moi ou que moi, je lui ai fait quelque chose et je lui demande pardon. Ouais, mais peut-être que j'ai rien fait. Peut-être qu'il se fait un film. Peut-être qu'il a mal interprété, peut-être que quelqu'un d'autre l'a monté contre moi. Eh bien, je fais quand même le premier pas. Parce que c'est ça, celui ou celle qui pense en premier de se bouger les fesses. Pas forcément au fautif. Parce que le fautif, 9 fois sur 10, c'est l'autre, c'est pas moi. Ce n'est jamais moi. Jusqu'à ce que je prenne le temps d'écouter l'autre. Quand je suis amer et que je ne pardonne pas, ce que je dis en fait, c'est ceci. Je suis meilleur que toi. Je ne ferai jamais ce que tu as fait. Soyons réalistes. Pour une vraie réconciliation, il faut être deux. Quand nous aurons fait notre démarche, nous trouverons peut-être en face de nous un mur. Nous n'en sommes pas responsables de ce mur. Notre responsabilité, c'est de chercher la paix, c'est de tendre la main, c'est de prendre le risque qu'on te crache dessus. Nous devons mieux obéir que les scribes et les pharisiens. Quand est-ce qu'on va le faire ? Demain ? Quand nous aurons le temps ? À la retraite ? Jésus dit ici, dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton frère ou ta sœur. Dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire. Fais-le sans tarder. Ne prends pas le risque que la dette court et que tu doives la payer avec des intérêts impossibles. Ne prends pas le risque de voir ta plaie s'infecter, de voir le cancer métastaser, de voir l'amertume tout empoisonner. Vas-y promptement. Ces choses-là ont une logique interne, une mécanique qu'il faut stopper de toute urgence. Quand nous lisons dans le journal ou que nous voyons à la télévision un fait divers terrible, nous voyons souvent que le meurtrier a commencé par de l'amertume, qu'il a continué par la haine et qu'il a terminé par le meurtre. L'engrenage. L'engrenage qui s'enclenche si rapidement. Jésus nous dit, va te réconcilier promptement, rapidement, n'attends pas, vas-y. Les versets 25 et 26 sont traduits différemment selon les versions. Il y a des traductions plus littérales. Nous avons comme dans la Tobe, mets-toi vite d'accord avec ton adversaire. C'est qui cet adversaire ? Pour la Bible du semeur, c'est quelqu'un qui porte des accusations contre toi. Un truc assez courant dans les églises évangéliques. Quelqu'un qui dit un truc sur toi. Pour la Bible, en français courant, c'est quelqu'un avec qui tu es en procès. On pourrait dire à quelque part que l'adversaire, c'est la partie adverse. Le risque, selon les usages de l'époque, c'est que le tribunal te donne tort, te mette en prison jusqu'à ce que tes proches viennent payer pour toi. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire. Ce que Jésus dit ici pourrait être résumé par un dicton, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Alors, la leçon plus générale que nous pouvons en tirer, me semble-t-il, c'est que dans la recherche de la réconciliation, il nous faudra de toute façon accepter des compromis. Soit parce que les torts sont réellement partagés, soit parce que le coût du conflit ouvert est trop élevé. La réconciliation, elle n'est pas toujours possible. Je l'ai dit, je l'ai expérimenté dans la vie. Ce n'est pas toujours possible. Le compromis n'est pas toujours possible non plus. Mais parfois, l'un et l'autre vont de pair. Que viennent faire ici alors ces considérations de bon sens, alors que la section commence dans la bouche de Jésus sur une note tellement idéaliste? Pourquoi Jésus quitte-t-il le terrain de la sainteté de Dieu pour nous donner des conseils tout bêtes, tout pratiques? Parce que justement, nous sommes dans un monde où la sainteté, elle doit se vivre au milieu des conflits. La sainteté, elle doit se vivre au milieu du péché. Quand on se présente devant Dieu au culte, quand la division guette, et heureusement que nous n'en sommes pas là, quand un procès menace, je conclue. Nous devons obéir à la loi de Dieu mieux que les spécialistes des Écritures et les pharisiens. Sans affaiblir, sans alléger, sans alourdir la parole de Dieu par des interprétations humaines. En veillant aussi bien sur nos attitudes que sur nos actes. En vivant la sainteté, non par une série d'interdictions, mais de façon positive. Oui, mais. si je n'ai pas fait comme ça? Est-ce que je suis obligé de payer le prix fort? Est-ce que je suis obligé de passer par le jugement de Dieu? Oui. Oui. Sûr et certain. Oui. Sauf que quelqu'un à la croix a payé pour moi. Et qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Je suis aimé, pardonné, sauvé. Je mérite l'enfer, je reçois la grâce. Dieu me donne sa plus grande bénédiction là où je mérite sa plus grande condamnation. Je peux vivre en nouveauté de vie. Et là, m'engager à mettre en pratique celui qui m'aime m'enseigne. Promptement, sans tarder, chercher la réconciliation et avancer en nouveauté de vie. Amen.
Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme nous pardonnons ce qui nous ont offensés.
Pour introduire la scène, je lis dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Pensez à la coupe du repas du Seigneur pour laquelle nous bénissons Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et le pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain.
À nous souvenir du sacrifice de ta vie pour nous, de ce à quoi tu nous invites, de la communion avec toi, de la communion les uns avec les autres, du privilège que nous avons de pouvoir vivre en nouveauté de vie et avec des relations assaines. Seigneur, aide-nous à chercher la réconciliation. La chercher avec toi, d'abord, et puis la chercher les uns avec les autres. Quand quoi que ce soit viendrait mettre un coup de canif dans les relations que tu souhaites que nous entretenions les uns avec les autres. Nous avons besoin de ton aide. Nous nous savons compris parce que tu as connu l'opposition. Nous nous savons aimés parce que tu as mené ta mission à bien. Et nous nous savons responsabilisés parce que tu tiens à nous et parce que tu veux nous voir marcher de progrès en progrès. Fais-nous cette grâce de prendre ce pain et ce vin en tenant ces choses ensemble et en marchant avec bonheur avec toi et les uns avec les autres. Dans le nom de Jésus. Amen.
Héloïse, Mathilde et Pauline, si je peux vous demander un coup de main pour distribuer, merci. Au centre, les gobelets violets ont du jus de raisin dedans. Si vous voulez la coupe, faites signe, Philippe vous la portera. Et n'hésitez pas à élever une prière si l'envie vous vient pendant ce moment. pour ton sacrifice, Seigneur, à la croix, nous te remercions. Par ton sacrifice, nous avons une relation avec toi. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés de nos péchés, Seigneur. Et je te prie qu'au travers de ce moment de communion, on puisse se lancer dans une nouvelle semaine avec cette certitude en tête et avec l'envie d'approfondir cette relation avec toi et l'amour que l'on peut porter pour nos prochains. Au nom de Jésus, amen. On va prendre un dernier chant pendant lequel on va passer les paniers à offrandes. Sentez-vous libre de donner ce que vous avez envie de donner.
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut.
Restez debout. Je lis pour la bénédiction dans Philippiens 2, 1, 5. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Bon dimanche à chacun, chacune.